D'ici 3 mois, on ne sera plus des vôtres. Fin juin, on aura déménagé. Et Élise part jeudi à Tokyo pour 2 mois et demi. Je crois qu'elle aura encore un culte avec nous, avec vous. Et après, elle ne sera plus là non plus, mais elle sera à Lille. Vous la verrez plus souvent que nous. Et je me suis dit, durant cette période de 3 mois, où j'aurai encore 3-4 fois la parole, j'aimerais, avec vous, superviser une épître. Je ne sais pas si vous vous rappelez l'introduction de Rahab dimanche dernier, et le texte que Jean-Vier nous a lu. Alors c'était dans la parole vivante, c'était pas trop évident de suivre. Est-ce que vous vous rappelez du texte qu'il a lu? Pour ceux qui étaient là. On se demande parfois qu'est-ce qu'on se retient d'un dimanche à l'autre, hein? Même pour moi parfois. Rahab, tu te rappelles? Je pense, hein? Vu que tu précides.
Dans
l'Éphésiens. L'Éphésiens. Et je vous propose, dans les 3-4 messages que j'aurai encore, je pense 3, parce qu'il y a un message sur Pâques aussi la prochaine fois, de faire un aperçu sur le livre d'Éphésiens. Le livre des Éphésiens. C'est un de mes livres préférés dans le Nouveau Testament, avec l'épître au Timothée, qui est plutôt une épître personnelle. Et on sait que c'est Paul qui a écrit cette lettre, hein. Et il a visité l'église d'Éphèse une première fois en 52. Après, il est reparti. Il est revenu 2 ans après. Et pendant 3 ans, il les a enseignés. C'est une des épîtres où il a le plus donné d'enseignements. Il y a dans Actes, vous pouvez suivre ça, dans Actes 18, 19 et 20. Et c'est même marqué, il les a enseignés jour et nuit pendant 3 ans. Et c'est aussi dans cette période qu'on pense qu'il a rencontré Timothée, son jeune frère dans la foi, et que Timothée s'est converti. Après, il est reparti. Et c'est que 10 ans après qu'il a écrit cette lettre adressée aux frères et sœurs d'Éphèse. Et en même temps, il a écrit la lettre aux Colossiens et il a écrit la lettre aux Philippiens. Et vous savez d'où il a écrit la lettre? Il était en prison à cause de sa foi, à cause de l'Évangile. Et il commence cette lettre par le verset 1-2. Ce qui est merveilleux, il commence cette lettre comme il la termine. Et je lis dans Éphésiens 1, verset 2, « Que la grâce et la paix vous soient données de la part de Dieu notre Père et du Seigneur Jésus-Christ. » Et au chapitre 6, 23-24, il termine par ces mêmes versets, cette même parole. Que la paix et l'amour soient donnés aux frères avec la foi de la part de Dieu le Père et du Seigneur Jésus-Christ. Que la grâce soit avec vous tous, tous ceux qui aiment notre Seigneur Jésus-Christ d'une manière inaltérable. La grâce, la paix et l'amour vous soient donnés. La grâce, la paix et l'amour. Que soit donné, Florine, pour cette journée, pour cette année à venir. Et cette grâce, cette paix, cet amour nous vient de notre relation avec Christ. Elle vient de Dieu notre Père, qui nous aime d'un amour inaltérable. Tu as du prix aux yeux de Dieu. On le sait, tu le sais, je le sais. Et Paul encourage ses frères et sœurs dès le départ en écrivant cette lettre. Et ce qui est merveilleux, je trouve, quand vous lisez les lettres de Paul, à chaque fois au début, il encourage ses frères et sœurs dans la foi. Même l'église de Corinthiens, qui était l'église où il y avait le plus de problèmes d'immoralité, au début, il les encourage. Il remercie le Seigneur pour ses frères et sœurs. Paul encourage ses frères et sœurs à regarder à Christ à travers de cette lettre. Est-ce que vous vous rappelez du message de Roland début du mois? Roland Frohlich. Qu'est-ce qui nous a encouragés? Colossiens 3. Vous qui êtes ressuscités en Christ, cherchez les choses d'en haut où Christ est assis à la droite de Dieu. Ne cherchez pas les choses de la terre. Et combien de fois nos cieux sont rivés sur la terre devant nous? Ah, cherchez les choses d'en haut. Florine, que tu puisses chercher les choses d'en haut tout au long de cette année. Mais je le dis aussi à chacun de nous. Et Paul encourage les frères et sœurs de chercher les choses qui sont en Christ, les choses que nous avons en Christ. Il dit au verset 3, chapitre 1, « Béni soit Dieu le Père de notre Seigneur Jésus-Christ. » Oui.
Je suis occupé, appelé plus tard.
Pas de souci. Béni soit Dieu le Père. On a vu il n'y a pas longtemps qui peut appeler Dieu son Père. Ses enfants. Ceux qui sont nés de nouveau. Ça montre bien que cette lettre s'adresse aux enfants de Dieu. À toi, à moi, qui sommes nés de nouveau, nés en Christ. Béni soit Dieu le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a bénis de toutes les bénédictions spirituelles en Christ. Toutes les bénédictions spirituelles nous sont données en Jésus-Christ. Dans les chapitres 1 à 3, Paul développe toutes les bénédictions spirituelles que nous avons en Jésus-Christ. Dans les chapitres 4, 5, chapitre 6 jusqu'au verset 9, il développe la marche en Christ. Puisque Christ nous a tout donné, marchons dans l'amour de Christ. Il développe cette marche par la foi. Et au dernier chapitre, chapitre 6, les versets 10 à 20, il nous encourage à tenir ferme, à résister, à marcher jusqu'au bout, à tenir ferme, à résister à l'ennemi. Ça veut dire que vous avez d'un côté, tout d'abord, assis en Christ, chapitre 1 à 3, chapitre 4, 5, 6, marcher, chapitre 6, tenir ferme. Mais je ne peux tenir ferme et marcher si je ne suis pas assis en Christ. Si je ne réalise pas tout ce que j'ai déjà en Christ. Si je regarde à Christ, si je m'approprie les bénédictions, ça m'aide à marcher. Ça m'aide à tenir et à persévérer jusqu'au bout. Et c'est ce que Paul veut encourager les frères et sœurs. Il y a un des autres thèmes dans ce livre qui revient plusieurs fois. C'est le thème de l'Église. 13 fois le mot « Église », 13 fois la communauté. Et quelqu'un disait « L'Église, une société nouvelle que Dieu est en train de construire au sein de l'ancienne ». 13 fois apparaît la mention de l'Église dans ces 6 chapitres. Chapitre 2, Paul dit « Un temple saint édifié sur les fondements des apôtres ». Et le fondement des apôtres, c'est quoi? C'est la parole de Dieu que les apôtres nous ont laissée. L'Église, fondement des apôtres. Chapitre 4, « Un édifice fondé sur la parole de vérité qui est en Jésus-Christ ». L'Église, ce n'est pas n'importe quelle Église. C'est une Église qui fonde ses racines dans la parole de Dieu. Chapitre 4, 21. Et dans le même chapitre, Paul encourage les siens, les responsables, les anciens, de transmettre cette parole avec amour et douceur. Amour et douceur. contraire à l'orgueil, à l'arrogance. Nous devons transmettre cette parole avec amour et douceur, avec humilité, avec compassion. À l'exemple de Christ et le verset que tu as cité ce matin, Christophe. Christ qui est doux et humble de cœur. Christ qui a aimé l'Église et s'est livré lui-même pour elle, chapitre 5, verset 25. Christ s'est livré pour son Église. Christ a donné son sang pour son Église, nous rappelle Paul dans Acte 20. Et parce qu'il s'est livré, parce qu'il a donné son sang, il a le droit d'être le chef suprême de l'Église. Chapitre 1, 22. Le chef de notre Église, ce n'est pas le pape, en convalescence actuellement, c'est Jésus-Christ. Jésus, en tant que chef d'Église, nous dit Paul, prend soin de son Église, chapitre 5, verset 29. Par amour pour chacun de nous, Christ n'a pas seulement versé son sang pour nous. Christ n'a pas seulement donné sa propre vie pour nous. Christ est aussi ressuscité. Il a vaincu la mort pour nous. Il a vaincu la puissance des ténèbres pour nous. Il a vaincu le péché. Et Christ habite dans nos cœurs par la foi. Nous sommes ses enfants. Par le Saint-Esprit, qui entre dans notre vie au moment de la conversion, Christ habite en nous. Et son œuvre va même plus loin et ne s'arrête pas à la résurrection. Christ est assis à la droite de Dieu et il intercède pour nous. Magnifique. Son œuvre continue jusqu'à son retour. Christ intercède pour toi. Il intercède pour moi. Et je pense que si nous sommes encore là aujourd'hui, ce n'est pas à cause de notre force ou de notre capacité. C'est parce que lui intercède pour nous, pour que notre foi ne défaille point. Pour que ma foi ne défaille point. Que je puisse persévérer jusqu'au bout. Et un jour, Christ, le chef de l'Église, reviendra. Il reviendra. Et alors cette Église sera parfaite. Sainte, glorieuse, il le dit au chapitre 5, versets 26 et 27. Et nous serons à un endroit, et je dis ça par rapport à ce que Christophe a dit ce matin, à un endroit où il n'y aura plus de souffrance, plus de larmes, plus de cris, plus de dépression, plus de lutte, plus de combat. Plus de pleurs, plus de détresse, plus de doute. Endroit de joie, en présence de Dieu pour l'éternité. As-tu cette espérance dans ton cœur? Mais en attendant que Christ revienne, Christ prend soin de son Église. Christ prie pour son Église. Et en attendant, Christ nous demande de prendre soin les uns des autres, de nous aimer les uns les autres. Soyez enracinés et fondés dans l'amour de Christ, chapitre 3, 17. Marchez dans l'amour de Christ. Et je pense que si Paul insiste tellement sur l'Église dans cet épître, c'est aussi pour nous montrer que nous n'avons pas été sauvés pour vivre notre foi seuls. Nous avons été sauvés pour intégrer l'Église de Jésus-Christ. Nous avons besoin les uns des autres. Nulle part dans les évangiles, dans les épîtres, c'est marqué qu'on peut vivre notre foi seul. Qu'on doit s'isoler de nos frères et sœurs. Non, nous avons besoin les uns des autres. Moi, j'ai besoin de vous. Vous avez besoin de moi. pour nous encourager, pour nous soutenir, mais aussi pour nous pardonner. Christ ne nous a pas seulement sauvés en tant qu'individus, il nous a sauvés pour qu'on puisse faire partie de l'Église, le corps de Christ, son Église. Qu'on puisse se réjouir avec ceux qui se réjouissent, qu'on puisse pleurer avec ceux qui pleurent. Vous savez combien de fois vient ou revient dans les épîtres de Paul, les uns les autres. Plus de 28 fois, les uns les autres. Les uns les autres. Nous avons besoin les uns des autres. Le Seigneur savait que nous avions besoin les uns des autres. C'est pour ça qu'il a pensé et voulu l'Église. L'Église, une société nouvelle, que Dieu est en train de construire au sein de l'ancienne. Et Paul dira à Timothée, la maison de Dieu qui est l'église du Dieu vivant, la colonne et l'appui de la vérité. L'église de Dieu vivant, la colonne et l'appui de la vérité. À l'époque de Paul, dans la ville d'Éphèse, il y avait plein de faux dieux. Même des faux déesses, on pourrait dire. Et une des déesses la plus adorée était la déesse Diane, appelée aussi la déesse de la fertilité. Elle était vénérée par beaucoup d'Éphésiens. Et en son honneur, on avait érigé un énorme temple. Il y avait plus de 127 colonnes dans ce temple qui soutenaient un toit énorme. C'était vraiment imposant. Aujourd'hui, on peut encore visiter cet endroit, c'est dans la Turquie moderne, mais il n'y a plus qu'une colonne qui reste. Mais Paul parle à ça, il était à Éphèse. Et c'est pour ça qu'il parle à Timothée. L'église, l'édifice, la maison de Dieu, qui est la colonne de l'appui de la vérité. Et je pense que Paul, en tant qu'érudit, connaissait très bien l'Ancien Testament. Et rappelez-vous, Salomon, qu'est-ce qu'il a fait? Il a construit un temple. Un temple de 30 mètres de long, de 10 mètres de large et 15 mètres de haut. À l'entrée du temple, qu'est-ce qu'il fit? Vous trouvez l'histoire dans Un Roi ou dans Deux Chroniques pour ceux qui suivent ou écrivent. Hein. Qu'est-ce qu'il a fait à l'entrée du temple? Il a construit deux énormes colonnes. Et c'est des colonnes qui soutenaient rien du tout. C'était des colonnes à gauche et à droite. Des colonnes de 20 mètres de haut. Plus haut que le temple lui-même. Des colonnes de diamètre de 6 mètres. Vous vous rendez compte, 6 mètres, c'est aussi large qu'ici ou même plus. 20 mètres de haut. Pourquoi ces colonnes? On les voyait de loin, ils étaient imposants. On ne pouvait pas rentrer dans le temple sans voir ces colonnes. Pourquoi ces colonnes, ces deux colonnes? Vous savez ce qui était écrit sur ces colonnes? Sur la colonne de droite, Salomon a fait écrire Yakin. Yakin. Sur la colonne de gauche, Boaz. Yakin veut dire il a fermé. Il a fermé. Dieu a fermé. Sur la colonne de droite, Boaz. En lui, la force. Dieu a fermé en lui la force. Je trouve ces deux colonnes représente une très belle image de l'Église, la maison de Dieu, dont Paul soulève ici un voile dans la lettre aux Éphésiens. La colonne de droite, Yakin, par laquelle Dieu nous rappelle que c'est lui le constructeur de l'édifice, du vrai temple que nous formons en Christ. Dieu nous rappelle que c'est lui qui a fermé. C'est lui qui, à travers Jésus-Christ, fortifie son Église, l'édifie, la soutient, l'encourage, nous édifie, nous soutient, nous encourage mutuellement. La colonne de gauche, Boaz, en lui la force, en Jésus-Christ est la force. C'est lui qui nous fortifie, nous renouvelle et nous permet de persévérer jusqu'au bout et de tenir ferme. Et tout au long du livre des Éphésiens, dans les 6 chapitres, il y a 2 mots qui reviennent plus de 120 fois sur plus de 157 versets. 120 fois revient en lui, de lui, par lui, pour lui, avec lui, par notre union avec Jésus-Christ. En dehors de Jésus-Christ, il n'y a rien du tout. En dehors de Jésus-Christ, c'est le néant. En dehors de Christ, notre foi est vaine. En dehors de Christ, pas de salut. En dehors de Christ, nous sommes perdus. En dehors de Jésus-Christ, pas d'église. En dehors de ma communion avec lui, pas de force pour vivre ma foi. En dehors de ma communion avec lui, pas de force pour vivre la vie d'église. En dehors de ma communion avec lui, impossible de nous aimer les uns les autres. Impossible de nous pardonner les uns les autres. Impossible de vivre la vie chrétienne et de marcher par la foi. Impossible de lui être agréable. Mais, alléluia, aux Corinthiens et aux Éphésiens, il dit « Christ est ressuscité ». La croix de Christ est vide. Le tombeau est vide. Nous sommes devant Pâques. Christ a vaincu la mort. Christ a vaincu la puissance de la mort. Christ a vaincu Satan à la croix, l'accusateur, l'ennemi de notre âme. Et Paul dit aux Corinthiens, « Grâce soit rendue à Dieu qui nous donne la victoire. » Sans cesse la victoire en Jésus-Christ. En dehors de lui, il n'y a pas de victoire. Mais en Christ, nous avons la victoire. En dehors de Christ, pas de force. Mais en Jésus-Christ, Paul nous rappelle, et il le dit aux Philippiens, « Je peux tout par celui qui me fortifie. » Je peux tout par moi-même ? Non. Je peux tout par celui qui me fortifie. Aux Corinthiens, il dira, notre capacité nous vient de Dieu, car nous sommes incapables par nous-mêmes de concevoir, quoi que ce soit. 2 Corinthiens 3, 4, 5. C'est un verset facile à répéter. 2, 3, 4, 5. À retenir. Incapables de nous-mêmes de concevoir quoi que ce soit. Alors nous pouvons concevoir plein de choses, faire plein de choses. Mais concevoir des choses qui ont une portée éternelle, ça c'est autre chose. Sans Christ, non. Et aux Éphésiens, il rappelle justement ceci au chapitre 6. C'est dans la communion avec notre Seigneur que nous trouvons notre énergie, parole vivante. C'est dans la communion avec notre Seigneur que nous trouvons notre énergie, notre force. Et c'est pour ça qu'il encourage les Éphésiens et leur dit « Quelles sont toutes les richesses insondables, à leur portée à travers Christ. En Christ se trouvent toutes les bénédictions spirituelles dont nous avons, que Dieu nous a fait grâce et qui nous aide à marcher à sa suite et à vivre la vie d'Église. Et justement dans Éphésiens, versets 3 à 14, Paul développe les bénédictions que nous avons en Christ. En grec, ces versets 3 à 14 forment une seule phrase. Verset 3a, en Christ, Dieu, notre Père, nous bénit richement, abondamment. Et pourquoi? Verset 4, dans son amour, à cause de son amour, Dieu nous bénit, au-delà de toute bénédiction spirituelle. Parce qu'il nous aime, parce qu'il t'aime, il prend soin de nous. Verset 4a, dans son amour, Dieu nous a élus, adoptés, prédestinés avant la fondation du monde. Paul aborde ici la doctrine de la prédestination. Le fait que Dieu nous a choisis avant la fondation du monde pour être sauvés et pour lui appartenir. Paul ne dit pas que les uns sont sauvés et que les autres sont perdus. Parce qu'à Timothée, il dit « Dieu veut que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité qui se trouve en Jésus-Christ. » D'un côté, nous avons la souveraineté de Dieu et d'un autre côté, nous avons le fait que Dieu, nous devons décider, nous devons choisir le salut que Dieu nous propose en Christ. Dans Luc 22, il y a d'autres versets, mais je lirai que celui-là, Luc 22:22, le Fils de l'homme s'en va selon ceux qui étaient déterminés à l'avance. Mais malheur à cet homme-là par qui il est livré. Le plan de Dieu se réalisera jusqu'au bout. Dieu est souverain, mais en même temps, nous sommes responsables. Mais comment conjuguer ces deux vérités? D'un côté, un Dieu qui décide de tout, qui est souverain, un Dieu qui ne fait pas d'erreur. Il dit et la chose arrive, il ordonne et elle existe. Et d'un autre côté, nous devons choisir un Dieu qui est un Dieu d'amour, de grâce, mais en même temps un Dieu qui est un Dieu juge, un Dieu juste, à qui nous devrons rendre compte un jour. Ces deux vérités qui sont côte à côte, que la Bible appelle une antinomie, ça veut dire deux vérités que nous avons du mal à saisir, à comprendre, parce qu'on a l'impression qu'elles se contredisent. Mais elles sont là. D'un côté, la souveraineté de Dieu. D'un autre côté, la responsabilité de l'homme. C'est comme un train qui roule sur un rail. Il y a les deux côtés. Si le rail va trop d'un côté, qu'est-ce qu'il va faire? Il va basculer. S'il va trop de l'autre côté, qu'est-ce qu'il va faire? Il va basculer. Nous devons... Ces deux doctrines sont dans la Bible tout au long. Nous devons juste les accepter, même si nous avons du mal à le saisir, à le comprendre. L'élection, le choix de Dieu. Un professeur en théologie disait « Essayez d'expliquer la prédestination et vous risquez d'y perdre la tête. Mais essayez de vous en passer, et vous risquez de perdre votre âme. » Je pense que nous devons avoir l'humilité d'accepter que les pensées de Dieu nous dépassent. Sa connaissance nous dépasse. Et ça montre qu'il reste Dieu. David dit dans le psaume 139, « Que tes pensées, ô Dieu, me semblent impénétrables. Elles sont trop grandes pour moi. Et Paul, aux Corinthiens, dans l'hymne à l'amour en Corinthiens 13, il dit à un moment donné, aujourd'hui, c'est partiellement que nous connaissons. Aujourd'hui, nous voyons d'une manière confuse. Mais un jour, nous le verrons face à face. Et alors, nous connaîtrons parfaitement. De ce fait, il nous faut enseigner avec humilité, avec douceur, et non dans un esprit d'orgueil et d'arrogance, parce que nous ne connaissons pas tout de Dieu. Et Paul de continuer, « En Christ, nous avons la rédemption par son sang. » Verset 7a. « En Christ, Dieu nous a pardonné nos péchés par pure grâce. » David nous rappelle que Christ nous pardonne nos péchés, même ceux dont nous ne sommes pas conscients, chaque jour à nouveau. Les péchés dans nos actes, dans nos paroles, dans nos pensées. Quelle grâce! Verset 11, chapitre 1. En Christ, nous avons été mis à part. Continue de dire Paul. Verset 13, en Christ, nous avons été scellés du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit est entré dans nos vies au moment de notre conversion et nous donne la certitude d'être enfants de Dieu. Et nous met dans notre cœur les promesses de cette parole, de toutes ces paroles. Quand vous regardez de plus près le chapitre 1 de Éphésiens, apparaît la Trinité, hein, Dieu le Père qui nous a élus avant la fondation du monde, Dieu le Fils qui s'est livré lui-même pour nous racheter, pour nous pardonner, nous sauver, et Dieu le Saint-Esprit qui habite en nous, qui nous a régénérés et qui nous permet de nous approprier toutes ces promesses. Et pourquoi Dieu nous a donné toutes ces bénédictions? Pour célébrer la gloire de sa grâce. Versets 6, 12 et 14. Et David dit dans le psaume 115, « Non pas à nous la gloire, mais à ton nom la gloire, à cause de ta bonté, à cause de ta fidélité, à cause de tes promesses envers nous. » À cause de ton œuvre parfaite. Mais Paul ne s'arrête pas au verset 13. Quand vous voyez la suite, chapitre 2, en Christ nous sommes aimés de Dieu le Père. Verset 5, en Christ nous avons la vraie vie, la vie en lui. Cette vie qui aboutit à la vie éternelle. En Christ, par la foi, nous sommes déjà assis dans les lieux célestes avec Christ, chapitre 2, verset 6. Même si nous sommes là, assis ce matin, par la foi et spirituellement, nous sommes déjà en présence de Dieu. Si nous sommes enfants de Dieu. En Christ, nous sommes sauvés par pure grâce. Verset 8, chapitre 2. En Christ, nous avons été créés pour accomplir des bonnes œuvres. Verset 13. En Christ, par son sang, nous sommes devenus proches de Dieu, proches les uns des autres. Vous enlèverez Christ de notre vie, on ne serait pas là ensemble. On ne se serait jamais rencontrés. Peut-être certains, mais on est tellement différents. Tellement de nationalités différentes. D'arrière-plan culturel différent. Pourtant, qu'est-ce qui nous unit? Pourquoi on est unis? C'est Christ. C'est Jésus-Christ qui nous unit. C'est merveilleux. C'est merveilleux. En Christ, nous avons la paix avec Dieu. En Christ, nous avons la paix avec Dieu. C'est Christ qui est notre paix. Nous sommes réconciliés avec Dieu. Es-tu en paix avec Dieu? Es-tu en paix avec Dieu? Jésus dit à un moment donné à ses disciples avant de partir, « Je vous donne ma paix. Je ne vous donne pas comme le monde donne. » Parce que la paix du monde est éphémère. Elle n'existe pas. Vous savez combien de signatures de paix on a déjà signées, des traités de paix, des centaines qui n'ont jamais été respectés. Et on ne sait pas ce qui est devant nous. Mais Christ promet sa paix, une paix profonde que plus personne ne peut nous enlever. Quand tu es enfant de Dieu, même les soucis, même les pires difficultés, cette paix reste parce que tu es réconcilié avec Dieu. Et parce que tu sais qu'un jour, tu seras avec lui. Il dit aux disciples, ne vous inquiétez de rien. Que votre cœur ne se trouble pas et ne s'alarme pas. Je vous donne ma paix. Je vous donne ma paix. Florine, que ton cœur ne se trouble pas et ne s'alarme pas tout au long de cette année. Facile à dire. Qui de nous n'avait déjà pas un cœur troublé cette semaine? Moi, le premier. Pourtant, je connais ces paroles de Christ. Et pourtant, ah Seigneur, pardon Seigneur, je vous donne ma paix. Chapitre 2, verset 15. En Christ, nous sommes devenus des hommes nouveaux. En Christ, nous sommes devenus des femmes nouvelles. Toute chose est devenue nouvelle. Verset 18. En Christ, nous avons les uns les autres accès auprès de Dieu le Père par un même esprit. Nous avons accès à Dieu. C'est incroyable. L'unique seul vrai Dieu qui existe. Nous sommes des privilégiés. Et pourtant, tellement souvent, on ne le réalise pas. Tellement souvent, on est encore là à râler, à vouloir plus. Mais nous avons tout en Christ. En Christ, Dieu a pensé et voulu l'Église. Chapitre 2, 22-21. Il nous a édifiés ensemble pour être une habitation de Dieu en esprit, un temple saint. Et un jour, cette église va être parfaite. Il le dit dans le chapitre 5. Nous serons parfaits. Et déjà maintenant, en Christ, Dieu nous voit justes et saints. Paul dénombre plus de 18 bénédictions qui nous sont accordées en tant qu'enfants de Dieu en Christ dans ces trois chapitres. Et il y en a sûrement plus. Aux Colossiens, il dit, nous avons tout pleinement en Jésus-Christ. Tout ce qu'il nous faut pour vivre ici-bas sur cette terre en tant qu'enfants de Dieu nous est donné en Christ. La vie chrétienne ne consiste pas en un grand faire et encore faire. Il faut que je fasse, il faut que je m'améliore, il faut que je produise, il faut que. Non, il n'y a pas de faux que. Tout est fait. Tout est déjà fait. C'est fait. Et combien de fois nous fonctionnons? Il faut que. Non. Christ a tout accompli pour nous, pour toi, pour moi. Je dois juste réaliser toutes ces bénédictions qui sont à ma portée et me les approprier. Je dois toujours à nouveau me les approprier par la foi. Dieu lui-même nous a fermés. Yakim. En Jésus, la force, Boaz. Et Paul termine ces trois chapitres par une merveilleuse prière. Et je vais terminer par cette prière dans Éphésiens 3, prière sur laquelle je vais revenir à un moment donné dans un de mes messages. C'est pourquoi, à cause de toutes ces bénédictions que nous avons en Christ, c'est pourquoi je fléchis les genoux devant le Père, Éphésiens 3, 14, de qui toute famille dans les cieux et sur la terre tire son nom, afin qu'il te donne, selon la richesse de sa gloire, d'être puissamment fortifié par son esprit dans l'homme intérieur. Mon désir ce matin, c'est que tu sois fortifié par l'esprit de Dieu dans ton âme intérieure. Que Christ habite dans ton cœur par la foi et que tu sois enraciné et fondé dans l'amour. Paul rappelle aux Corinthiens que ce n'est pas la connaissance qui édifie. C'est quoi? C'est l'amour. Que tu sois enraciné et fondé dans l'amour de Christ. Afin que tu sois capable de comprendre avec tous les saints quelle est la largeur, la longueur, la profondeur et la hauteur, et de connaître l'amour de Christ qui surpasse toute connaissance, en sorte que tu sois rempli jusqu'à toute la plénitude de Dieu. Un jour, nous serons remplis de cette plénitude de Dieu, quand nous serons au ciel. À celui qui, par la puissance qui agit en nous, peut faire infiniment, au-delà de tout ce que tu peux penser, de tout ce que tu peux demander ou croire. Christ peut faire infiniment, infiniment au-dessus de tout ce que tu demandes. À lui soit la gloire, dans l'Église, en Jésus-Christ, dans toutes les générations, au siècle des siècles. Amen.